Bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'histoire, l'histoire des Vosges, l'histoire d'Épinal et l'histoire au sens large également de notre pays, en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous poursuivons cette série où nous parlons tout particulièrement de casus belli, j'ai envie de dire, de quatre guerres.
Exactement.
Où, à travers l'histoire, l'armée s'est développée et ce développement s'est fait à la fois dans le domaine de l'attaque, mais aussi de la défense, sans oublier de l'observation. Est-ce que, en lien de tout cela, il y a aussi le développement des transports, que ce soit transport de troupes ou transport de matériel? Est-ce que les transports ont aussi évolué?
Alors, c'est vrai que vous avez raison. Bon, l'armée n'est pas responsable de tout, hein, ça se saurait. Mais c'est vrai que le problème de la défense est quelque chose de primordial, quelque chose de vital. Si vous ne pouvez plus vous défendre et si vous offrez votre gorge à l'adversaire, ça peut marcher. Donc, c'est quand même quelque chose qui est en position numéro un dans les préoccupations de tout État, quel qu'il soit. Et donc, effectivement, le problème des transports, à l'époque médiévale, bon, on n'en est pas là, dans la mesure où là, on n'a pas besoin d'avoir des transports très lourds, mais à partir du moment où on va avoir à traîner des engins de siège, en particulier lourds, alors pas seulement les catapultes, parce que tout ça est démontable, donc on n'a pas besoin d'équipage de traits, hein, avec des animaux de traits très lourds, mais à partir du moment où on a des canons, ils sont en métal, ils sont de plus en plus lourds, hein, puisque n'oublions pas que on fait exploser une charge de poudre à l'intérieur du tube, ce qui signifie que le tube doit résister à cette charge et que c'est cette résistance qui va faire qu'il va avoir un effet propulsif pour le projectile qu'il doit lancer. Donc il faut que le tube résiste. Et à partir du moment où on n'a pas encore une métallurgie très élaborée, bah, il faut effectivement, la méthode, c'est d'avoir un tube qui est très épais et qui permet de résister à cette explosion intérieure. Donc c'est lourd. Et donc on va avoir ce qu'on appelle des trains d'équipage qui vont être extrêmement pesants, hein, de plus en plus. On a d'ailleurs de très belles illustrations quand on voit des miniatures à la fin du Moyen-Âge qui montrent des arsenaux. Je pense en particulier à de très belles miniatures qui montrent l'arsenal de l'empereur Maximilien d'Autriche, la maison de Habsbourg, où on voit effectivement ces canons très lourds et où il faut des dizaines d'animaux pour à la fois tracter ce train d'artillerie, comme on dit, mais aussi emmener les caissons d'artillerie, parce que c'est pas seulement les canons, mais il faut emmener les boulets. Et donc les boulets, bah écoutez, si vous allez à Épinal, au musée du chapitre, j'ai une collection de boulets de l'époque de Louis XIV, hein, de l'époque du XVIIe siècle donc, qui sont des boulets de siège, comme on en trouvait dans la marine d'ailleurs les mêmes, qui sont entre 10 et 12 kilogrammes actuel, hein, de ce qu'on appelle des boulets de 20 livres, qui étaient les boulets lourds de l'époque. Bon, bah, écoutez, quand vous allez au premier étage du musée du chapitre, il y a un petit tas de boulets, là, rien que là, il y en a 300 kilos. Donc, imaginez d'emmener ça par les routes de l'époque, c'est pour ça d'ailleurs qu'on combat rarement l'hiver, parce que c'est pas possible, les routes sont impraticables, hein. Et donc on va transporter quand même cette artillerie aussi à travers champs, hein. Et donc il faut des routes empierrées, et puis il faut des troupeaux importants, à la fois des bœufs, des chevaux, pour traîner tout ça. Seulement, le problème, c'est qu'il faut nourrir toutes ces bêtes. Donc vous voyez, tous les problèmes d'intendance que ça porte, d'où évidemment un perfectionnement dans les routes. Quand on regarde par exemple les plans de construction de routes au moment de la Révolution française, et surtout à l'époque napoléonienne, donc où Napoléon a besoin de routes modernes pour pouvoir traverser les montagnes, hein, mais aussi pouvoir emmener du matériel pour les offensives en Europe. Ça va être un très grand constructeur de routes, malgré le peu de laps de temps qu'il va avoir pour construire ça. Mais on a beaucoup de routes qui sont de cette époque-là. Ce sont des routes qui, d'abord, ont une visée militaire, de façon à pouvoir amener du matériel, pas seulement des hommes, mais du matériel, mais aussi des hommes. – quand on regarde, par exemple, la bataille d'Austerlitz, Austerlitz 1804, décembre 1804, donc on est en hiver. 2 décembre 1804, alors je rappelle pour nos chers auditeurs qui sont d'Épinal que le site de la bataille d'Austerlitz, c'est à quelque chose comme 100-150 km de notre ville jumelle de Novijicin en République tchèque. Quand on va chez nos amis tchèques, on passe à travers le champ de bataille d'Austerlitz. Bon, c'était une parenthèse. Mais quand on regarde l'offensive d'Austerlitz, on est donc au mois de décembre, la grande armée de Napoléon se trouve, enfin de Napoléon, de Bonaparte, puisqu'il n'est encore pas empereur, ça sera l'année suivante, de Bonaparte se trouve au camp de Boulogne face à l'Angleterre, puisqu'on espérait pouvoir envahir nos amis anglais, hein, le Brexit, etc. Et donc on apprend que les Russes et les Autrichiens sont en train de marcher vers l'ouest pour mener une offensive. Donc Napoléon fait volte-face et il va faire marcher son armée, donc des dizaines de milliers d'hommes, mais avec le matériel, en particulier l'artillerie, à travers l'Europe, pour arriver jusqu'à l'actuelle République tchèque. C'est pour ça que je parlais de Novi Jumel. Parce que quand on y va depuis Épinal, Novijicin, c'est 1100 kilomètres. Hein, je le sais, pour y aller quand même assez souvent en voiture, hein, c'est une journée de voiture.
Plus que la largeur de la France.
Voilà, absolument. Et donc, c'est 1100 kilomètres depuis Épinal. Donc, depuis le port de Boulogne-sur-Mer, vous rajoutez encore 600 kilomètres à peu près. Les fantassins sont à pied. Tout le monde y va à pied. Bon, je vais pas raconter l'histoire des godasses de la Grande Armée, etc., c'est autre chose. Mais on traîne tout le matériel. Donc l'artillerie, les caissons d'artillerie, etc., etc. Et on arrive au service et on livre bataille et on gagne la bataille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut bien que les voies de communication se perfectionnent de plus en plus. Et j'ajouterai à ça, pour ne pas rallonger le débat sur les fortifications et sur les routes, que le chemin de fer va être un progrès extrêmement sensible au XIXe siècle pour le déplacement des armées. Et puisque nous sommes dans une date anniversaire, puisqu'il y a 150 ans, pratiquement, le préfet des Vosges bat la générale, comme on disait, pour avoir des volontaires pour partir faire front à l'armée prussienne qui arrive dans les Vosges. Bon, ça sera plus ou moins un échec d'ailleurs. Enfin bref, on a peut-être l'occasion d'en reparler. Mais les Prussiens, les Allemands, vont avoir une utilisation très rationnelle du réseau ferré qui existe, et ça, à cette époque-là. Hein, il faut se rappeler quand même que la gare d'Épinal est inaugurée en 1857, donc 13 ans avant cette guerre, et que la ligne entre Épinal et Dijon est inaugurée en 1866. Donc le réseau ferroviaire commence à être construit. Et donc les Allemands vont se servir de leur réseau ferroviaire, où ils étaient relativement en avance d'ailleurs, donc du côté sur le territoire allemand. Ils vont profiter du réseau en Alsace, qui a été un des premiers réseaux en France, hein, le réseau alsacien, et puis ils vont arriver dans les Vosges. Et pour arriver jusqu'à Paris, c'est la même chose. C'est-à-dire que les trains d'artillerie, tout ça, on va les mettre sur des wagons. Alors que l'armée française, en 1870, ne se sert pas, ou ne se sert que très peu, de ce moyen de transport. Ça va être l'une des causes, d'ailleurs, de la défaite française, de ne pas avoir à la fois le transport ferroviaire à disposition, et deuxièmement, des télécommunications qui commencent aussi, c'est-à-dire de savoir se servir de lignes télégraphiques, hein, de lignes téléphoniques, pour pouvoir correspondre. Ça, on n'a pas été bon non plus là-dessus. Ce qui veut dire que après la guerre de 70, on en tire la leçon, et toutes les constructions de voies ferrées qui vont se faire, en particulier dans l'est de la France, vont être des constructions qui vont avoir comme objectif d'abord le problème militaire. C'est-à-dire qu'aucune voie ferrée avant 1914 n'est construite en France sans l'aval de l'état-major. Donc on va avoir, alors d'où la toile d'araignée, hein, toutes les lignes qui parlent de Paris, hein, donc des radiales, et en particulier qui vont vers la frontière, avec toujours des lignes à double sens, de façon à avoir des convois montants et des convois descendants, et puis des voies circulaires, au plus près de la frontière, et puis ensuite en recul, la frontière, pour pouvoir ce qu'on appelle ripper des troupes, le long du front futur, de façon à ne pas perdre de temps, donc mettre les troupes sur des voies ferrées, et non pas évidemment leur demander de partir à pied.
Voilà, tout ça pour nous amener à parler de ces fortifications qu'on voit encore. Je ne vais pas dire on les voit fleurir, mais elles ont fleuri à une époque. Et bien on va les détailler dans cette série d'émissions, ces fortifications vosgiennes et leur utilisation autrefois. Et on va découvrir aussi comment elles ont servi au fur et à mesure des années. Je vous dis à très bientôt, Jacques Grasser.
À très bientôt.